Ma deuxième présentation, elle va porter sur une étude unicentrique pour le coup, qui a eu lieu au CNRHP. Et donc, on s'est intéressé à essayer justement de décrire des caractéristiques biologiques dans le sang fœtal de tous les fœtus qu'on a transfusés au CNRHP pour anémie en rapport avec le parvovirus B19. Voilà, donc c'était une cohorte qui a inclus des fœtus entre 2011 et mai 2024. Donc simplement sur le devenir, on a eu 64 fœtus inclus avec 16 morts fœtales, 10 fœtus pour lesquels il y a eu des anomalies cérébrales, dont 3 qui ont abouti à une IMG, 2 grossesses qui ont été poursuivies, 3 syndromes en miroir, qui est une complication maternelle assez grave qui survient quand il y a une anasarque sévère, avec une naissance vivante et un décès néonatal, et puis en tout 42 naissances vivantes. Donc là encore un pronostic assez réservé. Et donc les fœtus qui ont été inclus, donc c'était des anémies à parvovirus avec une confirmation par PCR dans le liquide amniotique ou dans le sang fœtal. Et l'âge gestationnel médian à la transfusion in utero était 22 semaines d'aménorrhée et 3 jours, avec en termes de une première transfusion dans la cohorte qui était à 16 semaines, donc quelque chose d'assez précoce, et une dernière transfusion qui était à 29 semaines. Donc l'objectif un peu de cette étude, c'était donc de décrire un profil biologique du sang fœtal. Donc au CNRHP, quand on fait des transfusions in utero, on a l'habitude de faire une ENFS et également des examens biochimiques sur le sang fœtal, quelle que soit l'indication de la transfusion in utero. Donc le but, c'était d'essayer de décrire un pattern caractéristique d'anémie en lien avec le parvovirus B19, de comparer avec ce qui a été publié en termes de normes dans la littérature et de comparer avec des profils biologiques décrits sur le sang fœtal dans le cadre d'anémie pour d'autres situations. Et donc on a comparé avec une cohorte de fœtus du CNRHP transfusé pour alloimmunisation anti-D, 174 fœtus entre 2009 et 2024. Et puis on a voulu comparer aussi ce qu'on observait quand il y avait un hydrops versus quand il n'y avait pas d'hydrops. Et on a réfléchi un petit peu à comment on pouvait confronter ça en termes de physiopathologie à ce qu'on savait de l'anémie fœtale sévère, qui implique, dans ce qui est rapporté et connu, une hypervolémie, une réaction de l'organisme fœtal à une hypoxie sévère et des phénomènes notamment d'hypoprotidémie et d'hémodilution. Donc les paramètres hématologiques qu'on a retrouvés, donc on a comparé les normes, c'est les normes qui ont été rapportées depuis longtemps de l'hémoglobine par Giancarlo Mari. Pour ce qui est des réticulocytes, c'est compliqué d'avoir des normes de réticulocytes. Ça dépend si on parle en valeur absolue ou si on parle en pourcentage d'hématie totale. En tout cas, on a retrouvé dans la littérature ces vieilles données de Nicolaïdès qui datent des années 80, où sont proposées des normes de réticulocytes en pourcentage d'hématie totale avec les bornes de ces normes. Donc on a utilisé ça. Et puis on a pu comparer aussi avec ce qui a été publié par nos collègues de Leiden sur des anémies allo-immunes avec anti-RH1. Et puis avec notre cohorte du CNRHP. Donc, pour ce qui est de l'hémoglobine initiale, elle est très basse, 3 en médiane, elle est beaucoup plus basse que ce qui est rapporté dans notre cohorte de fœtus allo-immunisé anti-D. Pour ce qui est du taux de plaquettes, là encore, on a des thrombopénies qui sont sévères, alors qu'on n'a pas de thrombopénie dans le cadre de l'allumisation anti-D. Et puis pour ce qui est du taux de réticulocytes, il est en valeur absolue, il est bas, il est beaucoup plus bas que ce qui est rapporté pour les allumisations anti-D et dans notre cohorte également, puisqu'on est à 39 gigas par litre versus 300. Et quand on regarde en termes de normes par rapport à ce qui est publié, on voit qu'on a quand même peut-être une petite surreprésentation de cas pour lesquels on a des réticulocytes qui sont inférieurs au cinquième percentile, donc un peu plus de 40%. Et puis pour ce qui est des réticulocytes exprimés en pourcentage d'hématie totale, si on compare à ce qui a été publié par nos collègues de Leiden, donc on a 6,2% dans la cohorte versus 17,7% par les collègues de Leiden, donc là encore pour des alumisations anti-RH1. Donc c'est des choses qui sont sues, hein, et qui sont connues, c'est-à-dire que mais c'est quand même toujours bien de le revérifier. C'est-à-dire qu'on est donc quand même sur une anémie qui est sévère avec une thrombopénie, et on est sur une anémie qui est arégénérative, donc avec des réticulocytes qui sont bas. On a regardé d'autres paramètres hématologiques, notamment au niveau des globules blancs. Là encore, des normes difficiles d'accès avec des normes retrouvées dans la littérature, donc qui sont anciennes. Et donc finalement, pas grand-chose qui ressort. La seule chose qui ressort peut-être, mais c'est des tout petits effectifs, donc c'est juste une hypothèse, c'est qu'on a quand même peut-être un petit peu plus de lymphocytes inférieurs au cinquième percentile. Donc on a peut-être un petit phénomène de lymphopénie. Pourquoi pas, j'ai pas retrouvé dans la littérature de description de profil d'infection fœtale qui donnait des lymphopénies, j'ai pas l'impression que ce soit documenté. Et puis on a regardé les érythroblastes, donc les érythroblastes sont les précurseurs des réticulocytes. Là encore, pas de normes publiées à part des choses qui sont très anciennes. Donc là encore, c'est exprimé en pourcent leucocytes. En fait, les érythroblastes s'expriment comme ça. Donc on a comparé, est-ce qu'on était par rapport au 5e ou 95e percentile de ce que, là encore, Nicolaïdès avait publié à la fin des années 80. On voit qu'il y a une surreprésentation quand même. Il y a plus de 50% des cas pour lesquels on a des érythroblastes qui sont supérieurs au 95e percentile. Et ça pose question parce que les érythroblastes, c'est à la fois en fait dans ce qui est rapporté dans la littérature, notamment chez les prémas ou un petit peu sur le sang fœtal, mais très peu. C'est un signe peut-être d'hypoxie, mais c'est aussi quand même le reflet de l'érythropoïèse puisque c'est les progéniteurs, c'est le stade d'avant les réticulocytes. Donc, est-ce que cette augmentation des érythroblastes est liée à une érythropoïèse très active, ou est-ce qu'elle est le reflet d'une hypoxie et donc elle est liée à une anémie profonde? On n'a pas la réponse, mais c'est une question qui est intéressante. On a regardé le bilan hépatique également. Pas vraiment de normes récentes dans la littérature, donc c'était pas très confortable pour comparer. La seule norme qu'on a retrouvée, c'est pour les azates. Et là encore, on a la majorité des cas pour lesquels les azates sont supérieurs au 97e, sont supérieurs à la norme haute. Donc là encore, la signification, on ne la connaît pas. Les azates, ça peut être le signe d'une souffrance tissulaire un petit peu globale, donc c'est peut-être le reflet d'une hypoxie. Et puis, pour ce qui est du reste... Désolé, c'est pas très facile. Pour ce qui est du reste, donc on a regardé les protides, la ferritine, la bilirubine totale et les LDH. Alors, donc pour les protides, là encore, on a des normes qui sont publiées mais qui sont anciennes. La seule chose qui paraît ressortir, c'est quand même une surreprésentation de protides inférieurs à la norme basse dans plus de 69% des cas. Donc ça peut aller dans le sens d'une protidémie. Et puis, pour ce qui est des autres paramètres, quand on compare là notre corps de fœtus transfusé pour anti-RH1, on a une ferritine qui est comparable. Alors la ferritine, elle peut être potentiellement augmentée dans le cadre d'une hémolyse. La bilirubine totale qui est strictement normale, alors qu'elle est augmentée dans le cadre d'une anémie alloimmune. Là encore, c'est normal, mais c'est toujours intéressant de le documenter, hein, puisque dans le parvovirus, c'est une anémie qui est centrale, donc il n'y a pas d'hémolyse périphérique des globules rouges. Et résultat intéressant, je trouve, c'est les LDH qui sont très 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 augmentés, alors que dans notre corps de fœtus transfusé pour anti-RH1, ils ne sont pas spécialement augmentés. Là encore, donc les LDH chez le fœtus, on ne sait pas vraiment de quoi c'est le reflet. J'ai retrouvé une publication, là encore assez ancienne, qui rapporte des LDH augmentés chez des fœtus en hypoxie dans le cadre d'un RCU sévère. Donc ça peut être éventuellement le reflet, là encore, d'une anémie profonde. Et puis, au niveau du ionogramme sanguin, on a regardé ça aussi, il n'y avait rien de particulier. Voilà, donc quand on regarde maintenant spécifiquement anasarc versus pas d'anasarc, qu'est-ce qui va ressortir? Alors, ce qui ressort, et ça c'est plutôt logique, c'est que l'hémoglobine en valeur absolue ou en écart par rapport à la médiane et le taux de plaquettes, il est statistiquement plus bas en cas d'anasarc. Ça c'est logique, puisque c'est des fœtus qui sont plus anémiés hein, que quand ils ne sont pas en anasarc. Ce qu'on voit, alors sur les réticulocytes, le seul résultat qui est significatif, c'est le pourcentage de réticulocytes inférieur au cinquième percentile. Il est plus important chez les fœtus qui ne sont pas en anasarc. Donc ça, c'est intéressant comme résultat, même si c'était la fiabilité, vu le nombre d'effectifs, il faut se méfier. Mais c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que les fœtus qui sont en anasarc, qui sont peut-être en train ils sont à un stade plus avancé, donc ils ont déjà commencé leur réticulocytose puisqu'ils sont en train de guérir, ou en tout cas, voilà. Alors que les fœtus qui ne sont pas encore en anasarc, ils ne sont pas encore en train de guérir, donc ils n'ont pas forcément augmenté ils n'ont pas commencé leur régénération. Et puis pour ce qui est des érythroblastes, là encore, tous les paramètres qui touchent aux érythroblastes sont beaucoup plus importants en cas d'hydrops versus pas d'hydrops. Pour les azates aussi, donc peut-être que c'est le reflet de la souffrance tissulaire globale. Pour les LDH, là encore, hein, donc ça plaide pour le fait que les LDH sont le reflet d'une hypoxie et d'une souffrance de l'organisme fœtal. Et puis là, pour les protides, c'était moins évident. Alors que pourtant, normalement, théoriquement, dans l'anasarc, en lien avec une anémie, il est censé y avoir une hypoprotidémie. Mais ça ressortait simplement sur le pourcentage de protides qui il y avait moins de cas avec protides supérieurs à la moyenne haute en cas de pas d'anasarc, mais c'était pas très probant. Voilà. Alors au final, qu'est-ce qu'on confirme à nouveau avec cette cohorte, c'est que donc dans l'anémie au parvovirus, c'est bien une anémie qui est profonde, arégénérative avec thrombopénie et qui n'est pas hémolytique. Alors, on a plein de questions non résolues. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une lymphopénie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les azates augmentées, c'est quelque chose qui est vraiment qui correspond à une réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a vraiment une hypoprotidémie? Il y a des choses, en revanche, qui ont l'air vraiment d'être certaines. Donc, ces CLDH qui sont très augmentés. Donc, est-ce que c'est le reflet d'une hypoxie? Je pense que oui, personnellement. Et puis, là encore, ces érythroblastes augmentés, de quoi c'est le signe? Est-ce que c'est le reflet d'une érythropoïèse extrêmement active? Est-ce que c'est le reflet d'une hypoxie? On n'a pas la réponse, mais c'est une question qui est intéressante. Comme je vous ai dit, plus de questions que de réponses. Et puis, malheureusement, beaucoup de données manquantes hein, dans cette cohorte, puisque ceux qui font des transfusions savent qu'on n'a pas toujours tous les prélèvements qu'on veut. Et puis, on a eu la difficulté de pas vraiment avoir de normes récentes publiées dans la littérature pour pouvoir confronter nos résultats pour certains aspects. Et c'est un travail qui est toujours en cours, avec notamment s'attacher à essayer de regarder si dans ces paramètres biologiques, il n'y a pas des facteurs qui pourraient nous aider à prédire notamment la nécessité d'une nouvelle transfusion. L'idée derrière, c'est d'essayer un petit peu de documenter le stade de la maladie fœtale avec tous ces paramètres pour essayer de savoir un petit peu s'il va guérir spontanément, rapidement et dans quel délai. Voilà, je vous remercie.